Alors, merci beaucoup. Merci de m'inviter à venir partager quelques réflexions avec vous. Je ne vous cache pas qu'à partir de ce que je viens d'entendre, évidemment, je suis habité par beaucoup d'émotions. D'autant que, finalement, vous avez déjà tout dit. À croire qu'on se connaît depuis longtemps. Parce que je suis frappé par la communauté de pensées, d'idées, par le partage qu'il peut y avoir entre ce qui a été dit et ce que j'ai l'intention de vous dire. Au fond, je me dis que d'une certaine manière, je ne ferai peut-être qu'une sorte de relecture de ce que vous avez dit. Je ne m'attendais pas, par exemple, je ne m'attendais pas du tout à un voyage en Hollande. Et comme nous tous, je procède beaucoup par association, voyage en Hollande. Et c'est le titre d'une publication poétique de Louis Aragon, qui danse précisément dans cet ouvrage, à ces quelques vers. Il n'aurait fallu qu'un moment de plus pour que la mort vienne, mais une main nue, alors est venue, qui a pris la mienne, qui donc a rendu leur couleur perdue, aux jours, aux semaines, sa réalité à l'immensité des choses humaines. Vous avez bien fait de choisir la Hollande, ou de ne pas la choisir et de la choisir quand même. C'est pas que j'aime pas l'Italie, hein. Mais l'Italie est tellement porteuse de révolte, formidable révolte. Oh bella ciao, bella ciao. Eh oui, tellement de révolte. Bref. Alors, les effets du handicap sur la sphère familiale. En préparant, je me disais que nos vies connaissent parfois de véritables tremblements de terre. Vous avez parlé de tsunami. Tremblement de terre, attendu ou soudain. Mais les séismes se produisent et leurs effets n'en finissent pas de nous ébranler parce que, au-delà du choc initial, l'onde de choc se propage, nous déstabilise dans toutes les sphères de nos vies, bien au-delà de ce que l'on pouvait croire initialement. Alors, quand vous m'avez demandé de vous rejoindre pour travailler avec vous cet après-midi, ce qui me venait, c'était une formule du genre « les effets en écho successif, concentrique de l'annonce du handicap ou du handicap sur la famille, sur la sphère familiale, sur les amis, le travail. » Et une image poétique à nouveau qui venait, tout le monde, on a entendu sur une musique de Michel Legrand, ce très joli texte, comme une pierre que l'on jette dans l'eau pure d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Et on n'en finira jamais de ces milliers de ronds dans l'eau. Ce sont nos vies quotidiennes, les vôtres, la mienne aussi, les nôtres, comme une pierre que l'on jette dans l'eau pure d'un ruisseau. L'image parle d'elle-même, il s'agit d'une onde de choc qui, se propageant, vient troubler la surface de l'onde, mais elle ne trouble cette surface que parce que dans les profondeurs, c'est-à-dire dans les profondeurs de ce que nous sommes et de ce que nous vivons, cette pierre bouleverse les équilibres presque invisibles, enfouis, immergés, mais tellement essentiels sur lesquels sont construites nos existences. Équilibres familiaux, équilibres relationnels, équilibres amicaux, sociaux, professionnels, j'en passe. Vous tous ici, vous réfléchissez depuis longtemps à la manière de dire, d'annoncer, à ce qu'il convient de dire et de ne pas dire, en fonction notamment de la personne ou des personnes à qui l'on s'adresse. Forcément, vous réfléchissez pour le vivre ou l'avoir vécu aux effets de ce qui est dit. C'est même pour cela que vous travaillez sur la manière de dire les choses. Qu'est-ce qu'il convient de dire? Comment le dire? Quelle est donc cette vérité, cette part de vérité qu'il faut dire, que l'autre attend, mais que l'autre redoute, qu'il connaît déjà, mais qu'il refuse, sur laquelle il anticipe, qu'il demande? Travailler sur le rapport à la vérité est une manière de travailler sur le rapport au réel, évidemment. La vérité, d'une certaine manière, libère pourtant celui qui a une intuition, mais qui ne peut pas mettre, ou pas encore mettre, de mots. Il sait sans savoir, il se doute et redoute. Mais il arrive que la liberté soit dure à habiter. Les effets du handicap sur la sphère familiale commencent dès l'annonce, dès l'apparition du handicap, et ne font sans doute que s'amplifier, même si, avec le temps, on s'habitue, on se laisse, en quelque sorte, apprivoiser. Lorsque cette vérité est donnée de manière trop brutale ou inappropriée, cette brutalité, cette appropriation crée, évidemment, un traumatisme supplémentaire pour celui qui la reçoit, traumatisme qu'il portera pour toujours et qui vient se surajouter au traumatisme inévitable que provoque la confrontation à la vérité, à la réalité. Comment dire le handicap? Et cette question me renvoie à cette très belle réflexion d'Albert Camus, qui est pour moi une invitation à l'exigence d'attention sur nos manières de parler. Il disait, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, et on sera d'accord, le monde a suffisamment de malheur, n'en rajoutons pas, qui que nous soyons. Ce qui veut dire que si vous aviez l'impression que je nomme mal les choses, je vous demande évidemment de bien vouloir considérer que ce sera une maladresse, elle est regrettable, mais il n'y avait pas d'intention, évidemment. Faut-il alors annoncer le handicap ou énoncer le handicap? Et là encore, vous ne m'avez pas attendu, sans doute, pour mettre au travail le sens des mots qu'on utilise, leur sens, c'est-à-dire leurs effets. C'est que donner un diagnostic, de quelque manière que ce soit, c'est toujours engager l'avenir. Il faut donc que l'avenir soit évoqué pour que le diagnostic prenne son sens, fasse partie du soin, de la démarche de soins et d'accompagnement, sans quoi il fonctionne dans l'esprit de celui qui le reçoit, ce diagnostic, il fonctionne alors davantage comme un verdict, comme une condamnation, que comme une aide proposée. Donner un diagnostic, c'est engager l'avenir. Il faut par conséquent que donner un diagnostic soit tendre une main, proposer une aide, créer un lien durablement. C'est d'ailleurs, pour une part au moins, ce que sait faire, ce que propose la vie associative, créer un lien durablement. Devant le traumatisme, nous n'avons pas tous les mêmes ressources, ni les mêmes capacités à entendre, à intégrer, à remanier, à dépasser. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités de résilience. Et notre éducation, notre structure de personnalité, notre histoire de vie nous fait singulier, chacun, et c'est avec cette singularité qu'il nous faut penser les questions que pose l'annonce d'un handicap et ses effets. Lorsque survient le handicap, sa révélation et son installation viennent en effet bouleverser nos équilibres, et en particulier ce que l'on pourrait appeler un équilibre identitaire sans lequel nous ne pouvons pas vivre sereinement. Mais de quoi parlons-nous à travers cette notion d'équilibre, de construction identitaire? Deux notions nous sont utiles à cette étape du raisonnement, l'identité et l'estime continue de soi. L'identité. J'emprunte à Pierre Sansot, sociologue grenoblois que les uns ou les autres vous avez pu connaître, parti beaucoup trop tôt à mon goût, j'emprunte à Pierre Sansot une très belle définition de l'identité. Il disait « Mon identité, c'est l'image que j'ai de moi, forgée dans le rapport aux autres, parce que j'ai par la suite à répondre à leur attente. » Une définition en trois temps. Mon identité, c'est l'image que j'ai de moi, forgée dans le rapport aux autres, parce que j'ai par la suite à répondre à leur attente. Très importante définition parce que, d'abord, elle nous place dans le rapport aux autres. Elle nous propose d'arrêter de confondre moi et l'image de moi. Si vous saviez comme je suis, a-t-il bien ? Ouais. Mais enfin ça, c'est l'image que j'ai de moi. Mais demandez donc à ceux qui me subissent à longueur de journée si c'est si vrai que ça. Voilà. Entre ce que je suis et la représentation que je m'en fais et l'image que j'ai de moi, il arrive qu'il y ait un écart, une faille, disait Bruno Castet, psychanalyste, etc. Une faille, un écart. Plus cet écart se creuse, plus je suis en souffrance. C'est le sale tour que l'on joue au chômeur. Je suis menuisier. Je suis menuisier. Voilà une revendication, une affirmation identitaire. Demain, j'ai plus de boulot. Je suis quoi ? Ah, chômeur, demandeur d'emploi. Demandeur d'emploi en situation de recomposition professionnelle. D'accord ? Hein ? Quand on ne sait plus résoudre les choses, on change les noms. Hein ? Voilà. D'accord ? Eh bien, voilà. La question identitaire, elle commence là. Au fond, elle commence avec la question « Qui suis-je ?» Mais très vite, Pierre Sansot nous invite à se décoller de cette question, ne restons pas là-dessus. C'est pas tellement « Qui suis-je ?» la question identitaire, mais bien « Toi qui me regardes, comment me vois-tu »« Toi qui me regardes, qui dis-tu que je suis ?»« Toi qui me regardes, qu'attends-tu de moi ?»« Et si tu n'attends rien de moi ?» circule. Laisse-moi tranquille. Parce que, dans le malentendu, autrement, nous ne pourrons jamais nous rencontrer et nous ne ferons que faire semblant. C'est vrai pour les vieux. Nous qui les regardons vieillir, nous, société française, qui prétendons voter bientôt au Parlement une loi d'adaptation de la société au vieillissement, si nous n'attendons rien des vieux, que leur pognon, laissez-moi mourir, ça n'a aucun intérêt. D'accord ? Maintenant, si me regardant vieillissant, vous attendez quelque chose de moi, alors essayons d'ouvrir. Qu'attendez-vous de moi ? Qu'attendons-nous de l'autre ? De l'autre handicapé. De l'autre parent handicapé. Parent de personnes handicapées, porteur du handicap de l'autre. Parce que nous le savons bien, les parents sont pas handicapés, bien sûr, mais ils vivent la situation de handicap avec leurs enfants. Ils se reconnaissent comme porteurs du handicap de leurs enfants. Et on aura beau leur dire, mais non, vous exagérez, c'est pas vrai, c'est son problème à lui. Ben voyons, d'accord ? Et les filles viendront et nous parleront de blessures narcissiques. Attendez. Alors j'en veux pas aux filles, évidemment. On a même besoin d'eux de temps en temps, hein ? D'accord ? Mais blessure, oui, narcissique. Ah, le raccourci, dis donc. D'accord ? Bon, qu'attendez-vous de moi ? La question identitaire, elle est là. Or, cette question identitaire, elle se joue dans un échange, dans la réciprocité, dans un échange réciproque, dans la circulation d'images. Vous faites de moi une certaine représentation. Je me fais de vous une certaine représentation. Et ces représentations, nous les mettons en jeu de société, si je puis dire, en enjeu de société, en circulation. Et c'est parce que vous avez une certaine représentation de moi que vous pouvez avoir des attentes à mon égard. C'est parce que je me fais de vous une certaine représentation que je peux avoir des attentes à votre égard. Quelle est la question identitaire? C'est bien finalement celle-là, qu'attendez-vous de moi? Moi qui suis parent d'un enfant handicapé, moi qui suis frère d'un adulte handicapé, moi qui suis, qu'attendez-vous de moi? Formidable question identitaire, à laquelle il nous faut garder ouverte, à laquelle qu'il nous faut mettre au travail, à laquelle il nous faut réfléchir sans cesse, parce que c'est à partir de cette question que je peux construire ce que Winnicott appelait une estime suffisante, une estime continue de soi. Alors, ne nous trompons pas sur le sens des mots, une estime de soi. Il n'est pas question d'orgueil, non, non, certainement pas. Mais s'estimer suffisamment pour pouvoir tenir debout, debout dans la relation aux autres, avoir de soi une représentation qui soit suffisamment positive pour pouvoir être en relation dans toutes les situations possibles avec les autres. Non pas un amour égoïste de soi qui ferait de chacun de nous le nombril du monde et le centre principal d'intérêt de toute relation, etc. Non, évidemment pas. Une suffisante estime de soi sans laquelle la relation à l'autre ne peut pas se tisser. On imagine et on comprend alors que les effets de l'annonce d'un handicap ou que l'apparition d'un handicap puissent se démultiplier exactement ici. Cette annonce, ce handicap ne me touche pas seulement moi dans mon rapport à moi-même, mais bien moi dans mon rapport aux autres, à tous les autres, et finalement dans mon rapport au monde. Alors, comment l'autre va-t-il désormais me percevoir, moi qui ai donné naissance à un enfant porteur d'une différence, d'une déficience, d'une difficulté particulière? L'autre, mon père, ma mère, mes frères, sœurs, amis, collègues, comment vont-ils me percevoir? Comment vont-ils me percevoir, moi qui suis devenu porteur d'un handicap qui profondément m'a bouleversé et qui déforme le corps de mon enfant ou qui déforme mon propre corps, mon visage, mes mains, etc. Et cette question, qu'elle soit ou non partagée par mon entourage, va de facto envahir tout le champ relationnel dans toutes les sphères de la vie sociale. Alors, la propagation de l'onde de choc produit inévitablement un traumatisme d'abord dans le couple, au plus près de soi, si je puis dire. Certains couples s'en sortiront renforcés, on le sait, d'autres n'y résisteront pas, tous s'en trouveront redéfinis dans leur base. Personne, évidemment, ne construit un couple dans l'espoir de vivre le handicap. Celui-ci vient donc bouleverser la donne, d'abord de façon extrêmement concrète. Cet enfant demande une attention particulière et on ne peut la lui accorder que si on organise le temps de l'un et de l'autre en fonction de cette demande particulière. C'est toujours vrai quand l'enfant apparaît dans le couple, mais là, c'est vrai d'une manière envahissante et c'est bientôt tout le temps du couple qui se trouve absorbé par l'attention que demande cet enfant. Que reste-t-il alors pour soi seul, pour soi à deux? Comment prendrons-nous soin l'un de l'autre? Et c'était exactement présent dans le dialogue que vous nous avez proposé jouer tout à l'heure. Comment prendrons-nous soin l'un de l'autre? L'amour conjugal a parfois besoin de temps. La relation conjugale se travaille quand on ne veut pas qu'elle se délite. Mais dans le secret du couple, et nous l'avons vu tout à l'heure également, se joue évidemment bien autre chose, indicible souvent, qui a à faire avec la faute, la culpabilité. Lequel des deux a donc introduit le handicap dans le projet d'enfant? Alors certes, on ne cherche plus aujourd'hui, comme il y a quelques années encore, on ne cherche plus confusément la transmission d'une tare héréditaire, mais la génétique avec une précision de scalpel parfois redoutable, donne à maître des vérités qui peuvent se révéler d'une incroyable violence. Les généticiens, chercheurs, médecins qui détiennent ces informations savent à quel point elles peuvent devenir explosives dans des couples et dans des univers familiaux qui découvrent ces réalités sans y être particulièrement préparés. Dans le face-à-face du couple, le handicap devient alors omniprésent. On en parle à tous les repas, et quand on ne veut pas en parler, si l'on veut éviter d'en parler pour ne pas se laisser envahir, le problème est tellement présent qu'on se trouve confronté au vide, à un mur de silence. Si l'on ne parle pas de ça, on ne parle plus de rien. Que le couple survive ou non, et on sait que de fait, c'est souvent le père qui s'éloigne ou qui ne trouve plus sa place. C'est tout l'univers familial qui se trouve alors submergé par la propagation de l'onde de choc. Les enfants les plus grands, s'il y en a, vont devoir découvrir ce bébé différent, tenter de comprendre ce qui arrive, ce qui lui arrive et ce qui leur arrive. Ils vont devoir en particulier apprendre à en parler, découvrir tout un champ sémantique auquel jusqu'à présent ils n'avaient pas eu à s'intéresser. Et ils vont devoir en parler avec les autres, leurs cousins, leurs copains, à l'école, partout. Et on sait que les réactions des enfants à ce genre de réalité peuvent tantôt être formidablement positives et simples, tantôt terriblement négatives, en particulier quand elles ne font que dire tout haut ce que des adultes dans leur propre entourage ont dit eux-mêmes ou ont simplement laissé entendre. L'onde de choc bouleverse donc les enfants, mais vous l'avez évoqué aussi, les grands-parents, on sans doute, ne seront pas épargnés. Et là encore, tous les cas de figure sont envisageables. Les uns accourront à l'aide pour soutenir, aider, consoler, partager. Les autres, par maladresse ou pour ne pas gêner, ou par ignorance ou par peur, se tiendront à distance, distance qui sera vécue comme du désintérêt, voire du mépris, en tout cas du désamour. Alors sur qui compter dans ce bouleversement familial tellement profond? Les amis peut-être? Ah là là! Combien avons-nous d'amis? C'est vrai, il arrive devant ce tremblement de terre que les amis, quelques-uns, soient alors une ressource, un point d'appui formidablement fiable. Ils sauront se rendre discrètement disponibles, être présents, s'engager, alors qu'ils ne sont pas a priori impliqués dans la situation. Précieux amis qui sauront même inviter, recevoir, déranger leur maison pour faire de la place, se laisser grignoter de temps en temps au moins par les difficultés que vous rencontrez et qu'ils acceptent de partager. Lorsqu'on leur annonce le handicap de leur enfant, les parents vivent une sorte de sidération qui, pour une part au moins, les empêche d'inscrire les faits dans la réalité et vient geler les capacités de réaction. Les amis, les vrais, mais ça peut être vrai des frères et sœurs ou d'autres membres de la constellation familiale, les amis, les vrais, connaissent au fond le même phénomène, mais sans doute à un degré moindre, parce qu'évidemment l'implication est différente, implication qui leur permet à eux de réagir, d'être présents et d'agir parfois de façon très précoce. La position très particulière qui est la leur va leur permettre par exemple de réintroduire de l'humour dans une vie qui en est désormais très facilement dépourvue. Les vrais amis sont peut-être bien ceux qui vous feront rire malgré le handicap et au-delà de celui-ci. Ces amis-là sont rares. Ils existent cependant, peu nombreux, et n'ont rien à voir avec les vrais faux amis des réseaux soi-disant sociaux qui likent ce que vous dites ou ce que vous montrez sur le mur virtuel où vous affichez votre image. C'est bien l'ensemble de votre réseau de relations sociales qui se trouve fragilisé par la survenue du handicap. La sphère professionnelle, évidemment, ne peut pas être épargnée. Soit vous ne dites rien, et vos collègues ne peuvent pas comprendre vos inquiétudes éphémères ou durables, vos absences pour enfants malades, votre démotivation ou votre surmotivation parfois. Soit au contraire vous dites ce que vous vivez et l'onde de choc d'une autre manière se propage. La moindre mauvaise humeur sera alors imputée à ce que vous vivez chez vous. La moindre indisponibilité sera expliquée de la même manière. L'indulgence des uns compensera certainement la bêtise ou l'incompréhension des autres, mais de fait, l'onde de choc s'est propagée jusque dans vos univers professionnels. Par propagation successive, c'est ainsi tout l'univers relationnel, social, qui se trouve déstabilisé sur les bases préalablement établies. Les loisirs, les vacances, les activités culturelles, les voyages, tout devient problématique, ou du moins risque de le devenir. Les engagements associatifs, syndicaux, politiques sont chronophages et dévorent un temps dont on ne dispose plus, décidément, comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds-vents. Il se peut alors que dans le couple s'opèrent des ajustements. L'un des deux réduit son temps de travail ou change d'emploi pour retrouver du temps de présence, de disponibilité, à la fois pour l'enfant porteur du handicap et pour la sphère familiale tout entière. Pourquoi pas d'ailleurs ? Mais les conséquences financières, vous l'avez évoqué, de ce choix, ne sont jamais négligeables immédiatement en termes de baisse de revenus et, à terme, de niveau de retraite, etc. C'est du même coup le niveau de vie de la famille qui se trouve affecté, c'est l'achat d'une maison qui se trouve reportée ou empêchée, etc. Je ne parle pas de la voiture qu'il aurait fallu changer, je ne parle pas... La voiture, ah, quelle voiture, quel format, quel... Parmi les difficultés multiples auxquelles seront confrontés les jeunes parents, on n'imagine sans doute pas le nombre de renoncements qu'ils devront vivre. C'est que annoncer ou énoncer implique un corollaire auquel on ne pense sans doute pas suffisamment. Annoncer, énoncer, renoncer. Évidemment, celui qui annonce ou qui annonce n'est pas celui qui renonce ou devra renoncer. Il se pourrait alors que nous ne prenions pas suffisamment en compte cette dimension du renoncement. Renoncer à quoi, me direz-vous ? Mais d'abord, à l'enfant dont on rêvait, évidemment. Et ce renoncement est certainement l'affaire d'une vie. On a déjà évoqué les renoncements relationnels, affectifs, amicaux, qui peuvent être vécus douloureusement. On a évoqué les renoncements professionnels, les projets de carrière, les mutations, etc. L'affaire d'une vie, il s'agit bel et bien de renoncer à une sorte de vie idéalisée que l'on avait rêvée et qu'il nous faudra vivre, pour une part au moins, dans une réalité parfaitement différente. On a évoqué les engagements auxquels il faudra peut-être renoncer, j'en passe. Le plus difficile est alors de renoncer à l'image de soi, à l'image que l'on avait de soi-même, cette image qui se construit dans le rapport aux autres, disions-nous. Ce rapport aux autres est désormais définitivement marqué par le handicap, et l'image qu'il nous renvoie intègre désormais et pour toujours cette dimension. Et si ce n'est pas vrai, c'est vrai quand même, si je puis dire, parce que si ce n'est pas vrai dans sa tête à lui, c'est vrai dans la mienne, et par conséquent, c'est vrai. Un enfant est porteur d'un handicap, dit-on, c'est vrai. On ne dit jamais que lorsque cela survient, c'est tout un univers familial qui est ainsi porteur du handicap de cet enfant. De ce fait, c'est l'identité de chacun qui se trouve marquée par le handicap, dans le meilleur des cas comme si le handicap était partagé, dans le pire des cas, comme si le handicap était contagieux. À quoi tient alors que nous soyons capables de passer du pire au meilleur? Sans doute à nos histoires personnelles, mais évidemment à la qualité de l'accompagnement que sauront nous offrir et inventer pour nous, d'abord nos pères, ceux qui, parents eux aussi, vivent des situations identiques ou proches et qui nous tendent la main, et puis accompagnement que sauront inventer des équipes d'orfèvres, médecins, psychologues, éducateurs, travailleurs sociaux de toutes sortes, qui, comprenant ces enjeux, sauront regarder bienveillamment ceux qui viennent d'être ainsi atteints dans leur identité. C'est ce regard bienveillant qui permet de reconstruire de soi une image positive et une estime suffisamment bonne durablement. C'est dans le miroir des autres que parfois on se reconnaît, aimait à dire Jacques Prévert. Et puis, tout n'est pas drame. Il peut paraître bizarre, je voudrais terminer mon propos, mais je voudrais terminer sur une note qui pourrait sembler l'affaiblir. Pourtant, même quand tout est grave, tout n'est pas forcément dramatique. Pour peu que nous sachions voir ou que nous apprenions à regarder non seulement le handicap, mais les forces qui demeurent, non seulement la déficience, le manque, mais les compétences déjà présentes ou qui pourront être acquises, non seulement ce qui manque, mais ce qui reste et sur lequel on peut construire l'avenir. Annoncer le handicap, énoncer le diagnostic, ne prend son sens que dans la mesure où cette annonce engage l'avenir, ce qui nous oblige à engager l'avenir avec ceux qui se présentent à nous. Permettez-moi, pour conclure, de vous raconter une belle histoire, une histoire vraie qui m'a personnellement beaucoup touché, affectivement beaucoup touché, qui m'a beaucoup donné à comprendre. Alors, peu importe le degré de parenté, mais très très proche. Une jeune femme, 28 ans, splendide, superbe, est enceinte de son premier enfant, heureuse de l'être. Elle se présente pour, banalement, l'échographie du troisième, ou je ne sais pas combien, cinquième mois, peu importe. Le radiologue lui explique alors qu'il croit déceler sur le visage du bébé qu'elle porte une fente, alors labiale, et il dit, mais vous savez, je suis pas sûr de moi et je vous suggère d'aller consulter à Paris une de mes collègues pour qui j'ai beaucoup d'estime. Elle est radiologue, échographe, spécialiste de l'échographie de la face du in utero. Parfait. Alors hop, cette jeune future maman prend rendez-vous et elle obtient le rendez-vous très rapidement, elle se présente. Il se présente plutôt parce que cette fois elle vient accompagnée de son mari. Elle est belle. Mais alors, lui, son mari, un peu comme moi, 1m90, d'accord, superbe, anglais de plus, avec une distinction, un humour, enfin bon, un accent. Ils sont beaux, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, quoi. Ça existe, hein. Voilà, d'accord. Eh oui, eh. Ils arrivent tous les deux. La radiologue, c'est une femme, les accueille, procède à l'examen, et le plus gentiment du monde, elle dit, je confirme ce que mon collègue avait vu, non seulement, je confirme, mais non seulement il y a une fente labiale, la lèvre, mais également gingivale et palatine, donc les trois niveaux sont atteints, et elle engage l'avenir, et elle dit, je vais vous mettre en relation, et elle utilise le mot, je vais vous mettre en relation avec Madame Attel à Paris, chirurgien, spécialiste de la face, vous verrez, elle vous accueillera, elle vous accompagnera, elle fera des merveilles. D'accord. mais l'annonce du diagnostic. Et pourtant, vous me direz, mais attendez, c'est pas un infirmateur cérébral, hein, c'est juste... Non, n'empêche que... Et quand même. Alors, le rendez-vous se termine, on note l'adresse de ce chirurgien merveilleux, etc., etc. Et puis, ce jeune couple quitte le cabinet de consultation, sort, regagne la voiture, et Odile s'effondre dans les bras de son mari, qui la serre dans ses bras et qui lui dit « Oh, tu sais marcher, oui, évidemment, pour jouer de son, en fait, c'est pas terrible, mais pour le piano, c'est pas un problème. » Vous vous rendez compte. Alors, les effets en écho concentrique de l'annonce du diagnostic seraient sans doute en partie amoindris si nous savions, de manière obstinée, délibérée, poser notre regard sur les capacités, les potentiels, de devenir positif, au lieu de réduire l'enfant à ce qui lui manque, à ce qui fait défaut. Non pour nier la déficience ou le handicap, la difficulté, cela n'aurait aucun sens, mais bien pour donner à chacun la possibilité de regarder l'avenir et de lui inventer du sens malgré tout. C'est ce regard vers l'avenir qui permet de faire de l'apparition du handicap et de la prise de conscience qu'elle provoque un élément constitutif de l'accompagnement et du soin, n'en doutons pas. Et puis allez, on ne devrait jamais oublier le piano. Bon. Merci beaucoup. Merci. Évidemment à votre disposition pour échanger si vous le souhaitez.
Le plus dur, n'est-ce pas de pénétrer dans la sphère familiale?
Le plus dur, n'est-ce pas de pénétrer dans la sphère familiale?
Ben oui.
Alors, il est dur pour la sphère familiale de s'ouvrir suffisamment, évidemment, pour y laisser entrer ce que l'on n'avait pas imaginez devoir y faire entrer, bien sûr, mais qui pourrait prétendre le contraire, bien sûr, évidemment, bien sûr. Et puis, il n'est pas facile de trouver pour y rentrer la porte juste, le pas qui convient, la manière, la parole, le geste, le sourire. Vous avez raison, bien sûr. On fera croire à personne que c'est facile. Hein. Oh là là.
Oui, voilà, monsieur, j'ai adoré votre conclusion. Sa résonance positive m'enchante, mais bien sûr, là, parce que parent, et doublement parent en plus. Jackpot. Eh bien, moi, ce que, quand même, je veux réagir à cela en disant que regard positif, oui, mais ce regard positif, nous ne le trouvons pas dans la société française souvent. Nos enfants, pendant tout leur parcours, ont été évalués par leur manque, leur déficience qu'on a essayé de réparer. Mon fils à 18 ans peignait des taches de la girafe en rose sur des fiches de section de grand de maternelle, en institution, il y a de ça une dizaine d'années et pas un demi-siècle. Et pourtant, à l'heure actuelle, il joue aux échecs dans un club de la ville, alors qu'il n'est pas lecteur. Mais ça, c'est nous qui l'avons découvert. Mais voilà, dans nos mentalités, en tout cas françaises, je ne dirais pas européennes, je ne suis pas suffisamment informée, tout est à revoir. Tout est à construire dans l'accompagnement de ces enfants-là. Il serait bien, enfin, que l'on les définisse autrement.
Formidable travail. Alors, déjà commencé, déjà ouvert, évidemment, mais formidable travail de dialogue entre les professionnels, les parents, les professionnels. en n'oubliant jamais d'inclure dans ce dialogue, alors je ne sais pas si le mot trilogue existe, mais d'inclure les personnes concernées dans ce dialogue. Évidemment, vos enfants, bien sûr, c'est en vous entendant me revient cette phrase que l'on attribue alors un coup à Nelson Mandela, un coup à Gandhi, peu importe, et puis je veux bien qu'elle soit des deux à la fois, ce que vous faites pour moi, si vous le faites sans moi, alors vous le faites contre moi. Eh ben voilà. Donc, non, on ne le fera pas sans eux. Sans eux, personnes en situation de handicap, sans eux, parents, sans eux, professionnels, tous nous sommes impliqués là-dedans. Il va falloir que l'on se parle. Qu'attendez-vous de moi ? Si vous attendez de moi que je me comporte comme un handicapé, c'est foutu. Si vous attendez de moi que je me comporte comme un homme, alors peut-être je vais apprendre à jouer aux échecs, même si je ne sais pas lire. Et oui. Et là, on sent bien qu'on a le poids de l'histoire sur les épaules, une histoire qui n'a pas toujours su, ou pas suffisamment su, prendre en compte les trois dimensions. D'accord avec ça. Mais on fera mieux demain. Hein? Sûr. On fera mieux. Oui. Ne renonçons pas à changer le monde. Ce serait le pire qui pourrait nous arriver à nous tous, qui que nous soyons là. Ouais.
Le plus difficile pour nous, c'était pas tellement le handicap, c'était se battre contre les soi-disant professionnels qui voulait catégoriser l'enfant en disant qu'il était incapable, et c'était à chaque fois à nous de prouver que non, il peut faire ci, il peut faire ça. Mmh. Donc vous parlez de la relation avec les professionnels, nous on l'a vécu très très mal, parce que ce n'était pas des aidants, justement, c'est comme s'ils nous faisaient un contre-courant. Donc s'il y a quelque chose à changer aussi, c'est le regard que peuvent porter les parents. On reproche souvent aux parents de ne pas avoir un regard objectif, n'empêche que l'avenir nous a donné raison, mais je crois que d'avoir un regard négatif est très mauvais, et ça n'aide pas les parents.
Mais en plus, c'est simplement des catégories dont il faut sortir. Est-ce qu'il existe au monde un père ou une mère qui soit capable de porter un regard objectif sur son fils ou sur sa fille? Enfin, alors je suis peut-être une vieille mère juive au fond, moi, mais ça n'existe pas, qu'un père ou une mère qui porte un regard objectif. C'est pas pensable, ça, enfin. Mes enfants sont quand même... Bon, et ben alors, puisque vous êtes d'accord avec ça, oui, c'est... Et là, je suis bien conscient, croyez-moi, de l'extraordinaire transformation qu'il y a à faire dans les parcours de formation des professionnels. Je sais. Mais on y arrivera, on fera. Vous le ferez. Oui, je vous en prie, madame.
Oui, je vous remercie parce que vous avez ouvert la voie de ce qu'on attend, nous, parents, famille, proches. On parle toujours des... Enfin, on parle, j'allais dire, bon, à l'APF, on parle des personnes en situation de handicap. Et on a l'air de scratcher complètement les proches, les familles et la souffrance des proches et des familles. Et là, vous avez mis le doigt dessus et Vous essayez de nous faire tous comprendre et comprendre à tous ceux qui sont là que nous aussi, on souffre et voilà.
Et ça doit être pris en compte.
Voilà.
Bien sûr. Mais je ne doute pas que les professionnels en soient capables. Encore faut-il qu'on les y invite, qu'on les accompagne dans ce chemin-là. Ils ont été formés pour l'inverse. D'accord ? Je me souviens... J'ai donné pendant des années et des années des cours en IFSI. Vous savez, il n'y a plus d'école d'infirmières. Hein. Il y a des instituts de formation. Enfin, bon, très bien. Voilà. Et quand je m'adressais à ces soignants, etc., au fond, en leur disant des choses à peu près identiques, je n'ai pas changé mon propos, moi. D'accord ? Et j'avais en face de moi des jeunes gens qui me disaient « Ah oui, mais nous, ce qu'on nous dit, c'est... Attention à ne pas vous impliquer affectivement. Mais attendez, moi je leur dis, mais si vous ne m'aimez pas, foutez-moi la paix. Ne venez pas me soigner. Alors, je ne vous demande pas de m'aimer sur le registre amoureux, je ne vous demande pas de m'aimer comme si vous étiez mon père, ma mère, ou... je vous demande pas de... Non, non. Mais si vous ne m'aimez pas, laissez-moi tranquille. Enfin, moi, je veux bien, quand je suis malade, je veux bien que ceux qui s'occupent de moi m'aiment. Autrement, c'est pas intéressant. Donc, apprenons aux soignants à se libérer de cette espèce de carcan qui leur dit, quand tu enfiles ta blouse blanche, tu laisses au vestiaire ce que tu es, ce que... Non, tu laisses pas ce que tu es. Certainement pas. Tu viens avec ton histoire, avec ce que tu es. Tu apprendras à faire des allers-retours entre ce que tu es, ce que tu vis personnellement et la situation professionnelle. Tu apprendras à mettre... Alors, la mode, c'est de parler de la juste distance, la bonne distance. Je m'en fous, je ne veux parler que de la bonne proximité. Exprès. Et oui, d'accord. C'est la même chose, évidemment, mais comme par hasard, c'est pas la distance qui est intéressante, mais c'est la proximité. Autrement. Vous voyez ? Donc, mais les professionnels, ils ont été... Alors, attention, parce qu'en plus, je vais dire des bêtises si je continue. Les professionnels, certains, pas tous, quelquefois je serais tenté de dire la plupart, mais même si je dis la plupart, c'est pas tous, d'accord ? Mais certains ont été formatés plutôt que formés, d'accord ? Eh bien, on fera péter ce formatage, bien sûr. Ils valent mieux que ça, ces professionnels. Ils ont des ressources professionnelles, personnelles, des compétences, etc., qui valent bien mieux que ça. Donc, évidemment, ils bougeront, bien sûr, bien sûr. Et c'est la rencontre qui les fera bouger, bien sûr.
Oui, je tiens à remercier ce qu'ont dit les parents. Et quand vous avez dit que tout avait déjà été dit, je crois que ce que vous avez dit aussi complète parfaitement. Et je crois que vous avez brossé un tableau tout à fait complet de ce qu'il fallait faire. Par contre, là, d'après les questions qui ont été posées, il est question d'accompagnement ou de transformation de parcours. Et pour ça, il est tout à fait indispensable qu'il y ait des relations importantes entre les parents et les professionnels. Et c'est comme ça que je veux conclure personnellement. Ça devient tout à fait indispensable et nécessaire.
Évidemment, et je vous en remercie, c'est évidemment indispensable. Bien sûr. Et je fais volontiers l'hypothèse que nombre de professionnels attendent cela. Parce que on pourrait faire un jour une séance de travail sur la souffrance des professionnels. Elle est réelle aussi. Oui, madame.
Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, la souffrance des professionnels, pourquoi pas, mais seulement s'ils aiment les personnes dont ils s'occupent.
On est d'accord, hein. On est bien d'accord.
Pour dire, enfin, l'amour aussi, il y a ceux qui viennent, suivant le cas, des étangs, si c'est dans une institution, qui viennent quelquefois aussi pour la rémunération. Et enfin, j'ai parlé, enfin, je vis en milieu rural, avec une personne à la MSA, qui était, enfin, qui a assumé de l'aide, enfin, en milieu rural. Elle me disait, pour les personnes enfin, vieillissantes ou pas, pour les aidants, elle a encore le droit d'accepter, disons, de refuser de l'aide, certaines aides, si ça ne lui convient pas. Par contre, dans des institutions, peut-être aussi, enfin, je ne sais pas, par expérience, par mise en retraite, mais dans les institutions, c'est la personne qui va s'adapter à l'institution et non pas l'inverse.
On imagine jamais suffisamment ce que c'est que la vie d'une personne handicapée qui va passer des années, des dizaines d'années, éventuellement sa vie totale, en établissement. Vivant toujours sous le regard des autres, des professionnels, toujours dans cet univers de collectivité, etc. Et ça, c'est une dimension qu'on ne prend pas suffisamment en compte. complètement d'accord avec vous. Complètement. Et c'est difficile à prendre en compte, hein, parce qu'il faut faire changer le fonctionnement institutionnel, du coup, hein, pour ouvrir des espaces. Oui, oui. Et les questions des moyens, etc. Bien sûr.
Oui, bonjour. Je viens de Belgique, vous me direz, c'est pas loin. Mais ça fait 25 ans que nous avons créé une association à la fois de parents et de professionnels autour de la personne polyhandicapée. Je vous assure qu'une fois que les professionnels considèrent le parent comme un égal, les choses bougent admirablement bien. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir discuter ouvertement avec le professionnel sans avoir peur de dire « il est plus malin que moi ». Non, nous sommes complémentaires, nous parents, par rapport aux professionnels.
Je suis très heureux, monsieur, de vous entendre porter ce témoignage. Je ne connais pas votre association, mais je sais que ça existe ici et là. Si c'est possible là, c'est possible ailleurs, évidemment. Merci.
Voilà. Moi, je voulais parler de la qualité de, au niveau de la sphère familiale. On ne peut pas demander aux gens qui sont dans cette sphère de faire des efforts, c'est-à-dire dans un couple, quand il y en a deux qui souffrent, l'un pour aider l'autre, parce que chacun essaye de se préserver. Au niveau des enfants qui sont en souffrance, les grands-parents et tout ça, bon, moi, ça se limite, la sphère, pour moi, ça se limite à ça, parce que c'est ceux qui souffrent le plus. J'ai un fils qui va avoir 30 ans, qui est tétraplégique. Enfin, pour moi, je reviens à ce que disait mon amie et voisine Claudie Michel, la société, en général, à tous les niveaux, si on était mieux accompagné, c'est-à-dire, déjà, s'il y avait une annonce, parce que vous parlez d'annonce, nous, on n'a pas eu d'annonce. On a appris sur le tas. Ensuite, au niveau professionnel, on arrête de travailler, mais on ne devient plus rien.
Oui.
On correspond à aucune case.
Les
psychologues, puéricultrices, assistantes sociales, moi personnellement, je n'en ai jamais vu à mon domicile. Chaque fois que je les ai vus, c'est moi qui suis allée les chercher. Pour mes enfants qui étaient scolarisés, les deux autres enfants, ces trois enfants qui ont traversé des périodes très difficiles avec hospitalisation, on n'a pas eu d'accompagnement. C'est toujours nous qui sommes allés chercher de l'aide. Et moi, je tiens pour responsable, c'est la société. Mais là, je vraiment, Claudie, j'approuve entièrement ce que tu dis. On n'est pas accompagné suffisamment. On progresse, mais encore, moi, je parle de ça il y a 30 ans, mais j'ai l'impression d'entendre, de revivre des choses encore avec les jeunes parents. Et souvent, ce que je dis aux administrations, parce que il y a aussi l'un de deux choses, les administrations, on apprend tout ce qui est administratif. Alors là, ça, c'est... Et ça, on a jusqu'à la fin de notre vie. C'est, je leur dis qu'il y a non-assistance à personne en danger ou en détresse. Et chaque fois, je leur dis ça parce que c'est vrai, ils sont confrontés à ces familles en détresse et on nous largue, on nous laisse tomber. Voilà, c'est tout.
Mais évidemment, personne ici ne vous contredira. Je réinterpréterai volontiers vos propos en disant la question que vous posez, c'est une question de citoyenneté. La question que nous avons à adresser à cette société, elle s'adresse en fait à chacun de nos concitoyens. Ce sont nos concitoyens, c'est nous comme concitoyens qui sommes constitutifs de cette société-là. Et donc, nous avons un discours politique, alors au sens le plus noble du terme évidemment, un discours politique à construire, à porter, à propager, à partager, à faire valoir, etc. Voilà. Thank you.